ça va mieux. Voilà ce qu'ils nous disent. Méthode Coué, baromètre cassé ou amélioration réelle, bien-être, confiance, croissance, à quels indicateurs se fier? Nouveau mantra de François Hollande, la France va mieux, tel qu'assumé devant les caméras de France 2, a été repris en cœur toute cette semaine par un gouvernement resserré, derrière et haut la gauche. Mais si c'était vrai, comment expliquer le décalage entre les réalités de l'action publique et le ressenti de l'opinion? Celle qui se fait sonder, 17% seulement estiment que ça va mieux, selon un sondage commandé par l'Opinion BFM TV. Celle qui proteste dans la rue, nuit debout depuis un mois, manifestation ce jeudi, défilé du 1er mai. Aujourd'hui, sommes-nous au premier jour d'un printemps social où les luttes convergeraient? La contestation contre la loi travail, en tout cas, ne faiblit pas et semble même s'élargir bien au-delà vers un ras-le-bol général. Mardi, le texte de Myriam El Khomri arrive à l'Assemblée où l'attendent les traditionnels frondeurs décidés à se faire le relais du refus syndical et étudiant et une dizaine de ministres proches de Martine Aubry qui associent leur voix au mouvement des réfractaires à ce texte, appellent à une autre réforme dans les colonnes de Libération. Devons-nous nous résigner avec la mondialisation à faire de l'abaissement des protections sociales l'horizon de nos vies, écrivent-ils, ou sommes-nous capables de tracer une autre voie? Une alternative à la gauche du Parti Socialiste qu'un nouveau collectif de syndicalistes, d'élus, d'intellectuels, surnommé 1er mai l'appel des 100, entend aussi relancer, selon le journal du dimanche, en marge du gouvernement, sans l'aide de Jean-Luc Mélenchon et en contournant la primaire. Ça va mieux, disent-ils, et après, avec nous pour en débattre en duplex de Lille, Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, ex-médiateur de la République et sénateur UMP, auteur de Reprenons-nous, un ouvrage paru chez Talendier en 2012. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci d'être avec nous à mes côtés en direct de la Maison de la Radio, Claudia Sénic. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Économiste, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous êtes l'auteur de L'économie du bonheur, un ouvrage qui est paru en 2014 au Seuil. Après vous être intéressé, mais c'est dans la même lignée, au mystère du malheur français. Enfin Fabien Escalona, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, spécialiste des gauches, enseignant à Sciences Po Lyon. Vous êtes l'auteur de La social-démocratie entre crise et mutation, un ouvrage paru, publié par la Fondation Jean Jaurès dans sa collection Les Essais. Allez, ça va aller. On est ensemble jusqu'à 19h. Et si vous souhaitez ajouter votre voix au débat, hashtag et après.
Dimanche et après. Olivia Jesper.
On est critiqué, tout le temps critiqué, mais et oh, regardez quand même ce qu'on a fait.
Je veux insister aussi sur ce qui va mieux. Alors c'est vrai, quand le président dit ça va mieux, quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux.
Les choses repartent, la situation s'améliore, la France va mieux. Je sais que lorsque l'on dit ça, on s'interroge sur notre capacité à pousser les feux encore plus loin. La France va mieux qu'il y a 4 ans.
Vous ne pouvez pas reprocher au président de la République ou à un gouvernement de dire les choses quand elles vont mal ou quand elles vont bien. La question est qu'à un moment où il y a une situation économique qui se redresse, avec ses imperfections, et on peut faire, à mon avis, beaucoup mieux, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes au chômage. Quand on dit « ça va mieux », ça veut dire que des choses avancent.
Ça va pas mieux pour tout le monde, ça va mieux en moyenne. C'est la vérité, ce sont les chiffres. Mais en même temps, il faut expliquer, il faut entendre quand il y a de l'inquiétude, de la détresse, etc. Il y a des gens qui ça ne va pas mieux, il y a un pays qui, en moyenne, va mieux.
On n'en peut plus, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes humains dans le pays. Plus personne n'y pense, on est dirigé par les finances, il n'y a plus que l'argent qui compte.
Moi je pense pas que la France va mieux, la France va de pire en pire. Et aujourd'hui avec la loi travail, je pense que ça va être vraiment de la précarité à outrance. On va pouvoir travailler plus d'heures, jusqu'à 60 heures par semaine, nos heures supplémentaires ne seront plus payées.
On va quand même parler et ouvrir ce débat avec vous, Xavier Rago, chercheur au CNRS, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui a publié le mois dernier ses perspectives 2016-2017. Petite reprise après grande crise pour l'économie mondiale et marge de croissance en France. Voilà ce que nous prédit l'OFCE, vu de New York où vous êtes parti prendre du champ. Et pour parler comme François Hollande, Xavier Rago, elle va mieux la France? Xavier Rago. On n'arrive pas à vous avoir pour l'instant. On va poser la question alors à mes invités. Claudia Sénic, est-ce qu'elle va mieux la France?
Si vous me posez la question à moi, c'est pas pour que je redise que les indicateurs objectifs de croissance,
on les a pas encore énumérés.
Voilà, et d'emploi, en fait, c'est ça, hein, se sont redressés et que, comme vous l'avez dit, c'est une reprise. C'est pour que on se demande si c'est rentré dans les esprits et si les gens ont l'impression que ça va mieux. En fait, quand on dit ça va mieux,
c'est quand même important ces indicateurs. Oui. Hein, une embellie sur le front de l'emploi, on l'a vu effectivement en mars avec 60 000 chômeurs en moins, et puis la reprise de la création d'emplois, une légère amélioration de la croissance au premier trimestre 2016 et une croissance qui roule vers les 1,5% sur l'année, des prévisions économiques plutôt optimistes et les fameux 12 nouveaux sous-marins pour la marine australienne, un super contrat qui donne des ailes pour l'instant au gouvernement. Les temps sont plutôt doux et c'est quand même bien que tout arrive en même temps.
Bien sûr, donc ça c'est indéniable, ça va mieux, les indicateurs sont au beau fixe, enfin orientés vers le haut. Maintenant, pour que le sentiment que ça va mieux prenne, en fait, ça va mieux, ça veut aussi dire ça va aller mieux. On va vers le mieux, donc c'est déjà le début et ça va continuer. Donc est-ce que cette petite reprise va donner lieu à un grand changement? Est-ce que le chômage va continuer à fondre? Est-ce que l'emploi va continuer à progresser? C'est ça. Et avant que ce sentiment se diffuse, il faut que l'amélioration concerne de plus en plus de gens et que les gens comprennent pourquoi, en fait, ça va mieux et pourquoi ça va durer.
Donc vous nous dites, comme à l'OFCE et comme Marisol Touraine, que la France va mieux qu'elle ne le pense elle-même?
Ce que je dis, c'est simplement que pour que les gens aient en tête que ça va mieux, que ça va aller mieux, pour que cette réalité objective se transforme en réalité subjective, il faut qu'il y ait un peu un récit. C'est-à-dire qu'on dise pourquoi ça va mieux et vers où on va.
Xavier Rago, est-ce qu'on vous a retrouvé?
Oui.
Pardon, vous aviez pris un tout petit peu trop de champ. Maintenant que vous êtes là avec nous, de New York, où vous êtes, comment vous voyez la France? Est-ce que ce « ça va mieux » vous semble être relevé de la méthode Coué pour le gouvernement et pour François Hollande? Ou est-ce qu'il exprime une certaine réalité, une amélioration de la situation?
Deux choses, et après une nuance. Oui, ça va mieux. Alors, deux preuves, si je puis dire. La première, bon, sont les chiffres que vous connaissez de la croissance au premier trimestre et les chiffres de l'emploi qui sont étonnamment bons même pour mars. Donc il y a des éléments un petit peu factuels, je dirais, qui montrent que ça va mieux sur le marché du travail, sur l'activité économique. Mais c'est presque anecdotique ces éléments-là, je dirais. Je pense que l'argument le plus profond pour expliquer et justifier que ça va mieux, c'est qu'au fond, c'était très prévisible, cette reprise réelle mais modeste de l'activité. Ça fait maintenant 6 mois que les prévisionnistes, je dirais, qui regardent l'activité économique de la France, on sait que ça va mieux et que ça va prendre beaucoup de temps avant de changer l'activité de l'entreprise, changer le chômage. On a parlé de l'alignement des planètes, vous le savez, du pétrole pas cher, du taux de change de l'euro, du fait de cette politique assez incroyable de la Banque Centrale Européenne qui a créé beaucoup de monnaie, qui a permis au taux de change de l'euro de se déprécier. Les taux d'intérêt sont très bas, même pour les entreprises, même pour les ménages, on le sait, ça facilite aussi l'acquisition de l'immobilier. Et enfin, point aussi essentiel dont on ne parle pas assez, la hausse d'impôts substantielle des années passées s'est ralentie, voire on voit des baisses d'impôts. Donc la dimension purement fiscale soutient plutôt la croissance. Donc tout ça, c'était assez prévisible. Ça fait 6 mois qu'on prédit pour le premier semestre 2016 une amélioration relative de l'activité. Et nous, on consolide maintenant nos prévisions de croissance pour 2016, pour donner un chiffre à 1,6 de taux de croissance et un taux de chômage qui baissera à 9,5% pour fin 2016. Bon. Ce tableau général indique que ça va mieux, c'était prévisible et quelque part c'est en partie le fait de l'action politique et puis en partie le résultat de fondamentaux après cette crise qui a duré très longtemps et dont on sort enfin. Donc maintenant, il y a une telle... Je vais juste finir là-dessus avant de prendre toutes vos critiques qui sont légitimes. Maintenant, ce que je vois un peu de l'extérieur, pour reprendre votre question sur le champ, c'est qu'il y a une telle politisation maintenant des enjeux des chiffres de croissance, un an des prévisions, que certains voudraient presque que ça aille mal dans des enjeux, à droite et à gauche, pour des enjeux parfois légitimes, de plus de réformes ou des réformes différentes. Tous ces éléments sont parfaitement légitimes. Et quelque part, ça brouille complètement les dynamiques actuelles.
Justement, allons-y. Fabien Escalona, alors question non pas à l'économiste, que vous n'êtes pas, mais au politologue. François Hollande fait du retour de la croissance et de la baisse du chômage le fondement d'un bien-être collectif. Est-ce que ça va mieux peut se nourrir uniquement de signaux économiques positifs ?
Bah, la réponse est non. Je crois qu'il y a d'abord, pour poursuivre ce que disait Xavier Arago, effectivement, il y a ce qu'on appelle une lutte de cadrage, si vous voulez, ou d'interprétation des événements, d'imposer une grille de lecture des indicateurs économiques dont on parle. Alors, il y a celle du gouvernement, vous l'avez expliqué, qui se fonde sur certains indicateurs qui viennent d'être cités. Et puis, vous avez les opposants au gouvernement qui vont pouvoir faire valoir d'autres indicateurs. Et de ce point de vue-là, il y a de quoi nuancer quand même, puisque on parle d'évolution trimestre par trimestre, mais enfin, on sort quand même d'une presque une décennie perdue. On a des centaines de milliers de chômeurs en plus depuis 2012. On a des taux d'activité aussi qui ont diminué, notamment pour les plus de 50 ans. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des jeunes, mais eux aussi sont frappés. Donc, il y a aussi des arguments pour dire, enfin, pour comprendre pourquoi la situation sociale quand même est perçue de manière négative. Et puis l'autre aspect, et là, on fait le lien avec les mobilisations actuelles, c'est que, au-delà des aspect matériel. Il y a aussi toute une série de mobilisations qui se sont inscrites dans le long cours sur le territoire et qui s'agrègent dans toutes les prises de parole qu'on entend à Nuit Debout, qui sont des combats qui concernent le productivisme. On pense aussi aux mobilisations autour des aéroports, des projets d'aéroports ou une grosse infrastructure. On a aussi des gens qui sont inquiets sur l'état des libertés publiques, etc. Donc il y a plein d'autres sujets en fait qui contribuent à nourrir des contestations éventuelles. Donc ça explique aussi pourquoi il y a cet écart entre le discours gouvernemental qui est un discours parmi d'autres et puis toutes les raisons qu'il y a à la fois de nuancer ce discours et puis tous les aspects qui sont non économiques et tout aussi importants.
Jean-Paul Delevoye, et pourtant la rue gronde, la place de la République fait nombre. Comment vous expliquez ce décalage ? Qu'est-ce qui rend le président inaudible ou est-ce que c'est son thermomètre à lui qui est cassé ?
Alors je crois qu'effectivement nous sommes aujourd'hui dans l'instantané, dans l'émotionnel, dans la survalorisation des bonnes nouvelles quand elles arrivent et la minoration des mauvaises nouvelles quand elles arrivent et quand on est au pouvoir. Il faut réfléchir au fait qu'aujourd'hui dans le monde entier, les démocraties reculent au profit de certaines dictatures et que dans le monde entier des discours anti-système et des partis anti-système sont en train d'émerger de façon extrêmement rapide et conteste le système en place et quelquefois à la surprise générale. Ça veut dire qu'un ressort aujourd'hui est cassé entre la classe politique et les citoyens. Et quand vous n'avez plus confiance en quelqu'un, quelle que soit la qualité du message que vous émettez, vous ne l'écoutez plus, et quand vous l'écoutez, vous avez un soupçon. On ne sait plus qui croire, que croire, à qu'est-ce qu'il faut abandonner comme illusion ? L'ultralibéralisme qui fait exploser les inégalités. Il n'y a jamais eu autant de relance d'argent public, mais il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'inflation et il n'y a pas d'emploi. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, on nous dit « ça va bien pour ce trimestre, mais en même temps, les sous-marins qu'on a vendus en Australie, formidable nouvelle, mais ça veut dire aussi que l'Australie est en train de s'armer parce qu'elle a peur de la Chine et d'une instabilisation chinoise. Aux États-Unis, on se pose des questions sur la relance économique, mais une telle fragmentation d'inégalités. » Et l'on voit bien qu'il y a une colère dans l'opinion. Il y a une qui est une bonne nouvelle, parce que quand on est en colère, on a encore de l'énergie mobilisatrice. Et comme le disait Madame Sénic, on manque d'un récit inspirant. On rentre dans un moment où le numérique va changer le rapport à l'autre, le rapport au temps. On va peut-être revisiter la relation du travail. On n'aura plus un travail sur un lieu fixé, avec des horaires fixes. Quel enthousiasme nous devrions engager pour dire « la France a toute l'intelligence nécessaire si elle fait confiance à ses concitoyens, à la mobilisation de l'intelligence collective », comme le disait Monsieur Scalona, de ne pas considérer que dès qu'il y a Nuit Debout, une expression citoyenne directe, c'est une contestation du pouvoir. Au contraire, nos concitoyens aujourd'hui veulent être écoutés, veulent être respectés et qu'on les libère dans leur capacité d'invention et de créativité.
Jean-Paul Delevoye, là, vous
notre système contrôle.
Vous êtes déjà sur le remède. Juste à la même époque, l'an passé, vous diagnostiquiez effectivement crispation et rupture potentielle de notre société. Est-ce qu'on en est encore là un an après ? Est-ce qu'on est encore plus près, plus proche du point de rupture, selon vous ?
Bien sûr qu'on en est là, parce qu'en réalité, les citoyens n'écoutent plus. Le nombre de personnes qui n'arrêtent pas de parler de politique, je n'ai jamais vu autant de débats politiques dans les familles, dans les cafés, et je n'ai jamais vu de colère aussi forte contre les politiciens. Au point même d'ailleurs que quand les politiciens, avec une bonne volonté, cherchent à mettre un débat, et ils tuent le débat. Or, aujourd'hui, tout est politique. Les choix de société sont devant nous. On va pouvoir remettre demain nos pactes collectifs de retraite, si les jeunes ne veulent plus payer pour les anciens, notre pacte collectif de sécurité sociale, si les bien portants ne veulent plus payer pour les malades. Or, nous avons devant nous à retrouver cet enthousiasme du futur, cette gourmandise du futur. Et il y a une rupture extrêmement forte, car nos concitoyens n'écoutent plus ce qui normalement devrait être leur guide, leur élite. Au contraire, ils ont l'impression qu'un peu comme au moment de la Révolution, le peuple regarde aux grilles du château danser la noblesse du roi sans se préoccuper de la situation du quotidien. Et donc il y a un décalage incroyable entre ce que laisse entendre une quête d'utopie de l'élite politique et une réalité, et les gens disent mais on n'est pas dans le même monde. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, par la disparition des idéologies politiques qui faisaient le confort des politiques et même le confort des citoyens, on était de gauche, on était de droite, maintenant on ne sait plus bien ce que ça veut dire, eh bien la disparition de ces idéologies a fait qu'on voit une classe politique obnubilée par la conquête du pouvoir. On se rassemble même si on ne s'aime pas, mais parce qu'on a envie d'avoir le pouvoir et on n'est plus porteur d'un projet de société.
Claudia Zénic, spécialiste de l'économie comportementale, vous avez souvent raconté, décrit notre inaptitude culturelle au bonheur, les causes du malheur français. Vous évoquez ces frustrations qui seraient notamment dues à, selon vous, et ça fait écho à ce que vient de nous dire Jean-Paul Delevoye, un égalitarisme est affiché et un élitisme trop étroit. Est-ce que François Hollande, pour vous, est aussi déconnecté de la réalité que le PIB l'est comme indicateur de notre bien-être?
Je ne sais pas si le PIB est déconnecté du bien-être quand même, parce que quand le PIB augmente pendant des périodes assez soutenues, les gens sont quand même, ça fait quand même du bien. Moi, je crois que je suis assez d'accord.
Mais on ne peut pas, c'est pas le seul indicateur. On peut pas.
C'est pas le seul indicateur, bien sûr. C'est l'indicateur dont on disposait depuis longtemps et pendant longtemps et qui était une espèce d'approximation du bonheur ou de la satisfaction des gens, mais c'est pas le seul. Et maintenant, beaucoup de gouvernements en Angleterre, maintenant en France, en Belgique, etc., ont entrepris de mesurer aussi autre chose. Mais là, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, je ne sais pas si... Bon, c'est vrai que dans les enquêtes, on voit que les gens, et notamment les Français, sont très très négatifs quand on leur demande si les partis se soucient de ce qu'ils pensent. Si ils ont confiance dans le fait que dans le système légal, dans les hommes politiques, dans la classe politique, s'ils ont l'impression qu'ils peuvent influencer les décisions, etc. Mais je ne sais pas si c'est une défiance par rapport au parti en tant que tel ou au personnel politique en tant que tel. C'est plutôt que les partis, effectivement, sont tellement hétérogènes, il y a tellement d'opinions complètement contradictoires et même opposées que les gens ne se sentent plus écoutés. En fait, ce qu'ils veulent, c'est s'écouter. En fait, c'est ça qu'ils font. En fait, à nuit debout, ils s'écoutent à raison de 2 minutes chacun à tour de rôle, dire ce qu'ils ont à dire, se manifester, en fait, plutôt que manifester, parce qu'ils ont l'impression que sinon, ils sont plus tellement entendus.
Il formule aussi une pensée avec peut-être effectivement l'attente ou l'espoir d'être quand même
voilà,
entendu là-dessus.
Voilà, une pensée, plein de petites multiples.
Xavier Rago, vous êtes toujours avec nous en ligne de New York, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques. À quels indicateurs se fier, selon vous, pour mesurer le bien-être des Français?
Alors, deux éléments, et après je vais effectivement aussi acquiescer avec ce qui vient d'être dit. Avant, je vais terminer sur les éléments conjoncturels. Ça va mieux, mais les Français ne le voient pas encore. Il faudra encore quelques mois pour que ça s'exprime vraiment, et je pense que c'est l'indicateur le plus important en termes de perception de la croissance, en termes de taux de chômage, en termes de diminution de la précarité, transformer les CDD en CDI et les stages en CDD, donc toute cette dimension d'absorption, notamment des jeunes sur le marché du travail, qui va s'améliorer, et ça va prendre beaucoup de temps encore, car on a encore les stigmates de cette crise. Donc, au niveau de la dimension strictement économique conjoncturelle, je dirais, il faudra encore quelques trimestres pour que les Français voient la réalité dans leur quotidien, dans leur famille, quelqu'un qui trouve un stage, un CDD, un CDI. Premier point. Second point, et je prends un peu de champ par rapport à votre question, et là, j'acquiesce ce qui vient d'être dit, en tant qu'économiste même, moi, ce qui me surprend vraiment, même sur le plan économique, c'est le raccourcissement de la réflexion politique sur la question économique. Maintenant, on fait de dimension de l'inversion de la courbe du chômage, de la réflexion sur le taux de croissance sur un trimestre, deux trimestres, des éléments dont on sait, en tant qu'économiste, sont extrêmement volatiles, au cœur du débat politique. Et là, je dirais, c'est pas le bon Dieu. On voit qu'il y a une demande maintenant, et peut-être cette demande va être renforcée, je dirais, parce qu'au niveau conjoncturel, ça va s'améliorer, donc il y aura peut-être plus d'espace de réflexion politique, pour avoir un horizon de réflexion, comme a dit Claudia Sénic en termes de récit, comme a dit M. Delevoye en termes d'utopie, une réflexion à 10 ans sur un projet de société, avec une dimension économique qui inclut l'intégration européenne, qui est l'énorme absent du débat français, qui est assez incroyable, le Brexit avance, la Grèce en situation de quasi-faillite. Donc tout ça doit être articulé à un récit européen, c'est une condition sine qua non, à une vision sur le mode de protection sociale, qui a une dimension fortement économique en termes de stabilité des finances publiques et autres. Donc il y a une projection, je dirais, politique à 10 ans qui est absolument nécessaire, dans lesquelles les économistes modestement peuvent aider à réfléchir, et là-dessus on doit aider à réfléchir, je ne crois pas à la dictature des experts, aux politiques de formuler le projet à l'économiste, essayer de dire ce qui est possible ou pas suivant notre intelligence de la situation. Mais ce qui me surprend dans le débat français, qui est différent par rapport aux États-Unis avec l'émergence de Bernie Sanders. Et on attend quelque part dans le débat français ce même choc dans le débat public qui permettrait enfin, je dirais, la projection, quelle qu'elle soit, on voit les
ce fameux grand récit, hein, comme vous le répétiez effectivement, Xavier Rago. Je vais juste donner la parole à Fabien Escalona sur ce point. Ce discours proactif, finalement, c'est ce que nous dit aussi l'économiste Xavier Rago, masque mal la régression réelle ou ressentie du rôle de l'État et l'absence de discours politique.
Oui, je vais assez dans son sens. C'est-à-dire qu'il y a deux mots qu'on a utilisés, c'est le mot de l'expérience quotidienne des gens et le mot de récit. Alors sur l'expérience quotidienne, moi je voudrais rappeler la situation qu'on avait en 2002 avec le gouvernement Jospin. C'est-à-dire que les indicateurs sur le fond du chômage étaient bons par rapport aux indicateurs qu'on cite aujourd'hui. Par contre, il y avait eu une dégradation de la qualité des emplois, comme on la connaît maintenant depuis plusieurs années. Et donc ça avait beaucoup participé aussi à la baisse de crédit de ce gouvernement. Donc il y a cette dimension à prendre en compte. Et puis l'autre dimension, c'est effectivement que je suis frappé aussi par exemple par la phrase d'Emmanuel Macron quand il dit « ce sont les chiffres, donc c'est vrai ». Et c'est vrai qu'on a eu l'histoire de la courbe du chômage, ce qui ne veut rien dire pour les gens, la courbe du chômage, expliquée par François Hollande au début du quinquennat. Maintenant, on nous abreuve effectivement de chiffres conjoncturels, mais derrière, on ne voit pas se dessiner de culture politique ou d'utopie, comme le disait Jean-Paul Delevoye, et je trouve que ça fait écho en fait à la séquence temporelle dans laquelle il faut resituer les contestations qu'on connaît aujourd'hui. Ces contestations, elles se situent dans une séquence temporelle qui s'est ouverte depuis la crise, mais aussi qui s'est ouverte depuis beaucoup plus longtemps, depuis une trentaine d'années, où on a une dilution des grandes cultures politiques, que ce soit à droite ou à gauche, et un sentiment qui est pas faux à mon avis, que la représentation, le circuit représentatif s'est dégradé pour des tas de raisons. Mais du coup, aujourd'hui, on voit un peu se cristalliser tout ça, c'est-à-dire ce qu'on ressent sur le quotidien, et puis quand même, depuis 30 ans, le sentiment que ce jeu d'alternance qu'on vit tourne un peu à vide.
Pour vous aussi, hein, Jean-Paul Delevoye, ce risque de dislocation sociale est le terreau, quelque part, de nouvelles radicalités. Il y a peut-être, vous le craignez, cette tentation autrichienne aujourd'hui en France, comme l'expliquait Nicolas Sarkozy ce week-end au JDD. Comment comprendre que dans ce contexte-là, avec toutes ces tensions, la parole politique ne parvienne plus à apaiser ?
Tout simplement, et c'est dit par M. Escalona et par Mme Sénic et aussi par M. Xavier Rago, nous sommes dans un peuple d'ingénieurs avec des hommes politiques qui sont devenus des gestionnaires. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est la différence qu'entre un manager et un leader. Un manager, il gère un problème, un leader, il donne envie. Or aujourd'hui, ce dont ont besoin nos citoyens, c'est d'une envie, une gourmandise du futur. Vers quelle espérance allons-nous nous tourner? Et comme il n'y a plus d'espérance politique, le religieux partout dans le monde est en train de l'emporter, y compris dans ses aspects les plus intégristes, et comme on ne croit plus à la force du collectif, on est en train, dans la survalorisation du moment, de segmenter notre histoire avec des lois mémorielles qui ont tendance à nous déchirer, et puis un avenir qui ont tendance à être plus porteur par des communautés, et on a une fragmentation de notre société, un rejet de l'autre dans sa différence, et une radicalisation et une violence dans les rapports sociaux qu'on ne soupçonne pas. Et avec d'ailleurs, dans un moment où la France devrait s'enthousiasmer sur cette révolution numérique, dans cette société de l'intelligence, au lieu de stigmatiser les échecs, on devrait valoriser les talents, et de faire en sorte qu'un élève qui échoue, c'est une intelligence qui est bas mobilisée, qu'un chômeur, c'est une intelligence mobilisable, et qu'un inactif à plus de 60 ans, c'est quelqu'un que l'on peut mobiliser pour le bien-être collectif. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que tout est politique, tout est potentiellement porteur d'espérances nouvelles, et nous avons une classe politique tétanisée par le quotidien, qui est dans le court terme, avec des réflexes suicidaires pour les démocraties. Plus il faut penser monde et plus on pense village, plus il faut penser moyen terme, plus on pense court terme, plus il faut penser l'autre, plus on pense refus de l'autre. Et on voit bien que ce qui est important, c'est pas les leaders, c'est pas les discours, c'est les chocs émotionnels. Et on a les migrants qui sont aujourd'hui sont en train de bouleverser la donne politique, avec les élans des années 30. On a le même phénomène, discrédit politique, crise économique, crise sociale et rejet de l'antisémitisme et rejet du juif à l'époque. On a exactement les mêmes relents mauvais qui sont en train de nous envahir. Et là, il faut un sursaut d'une conscience et d'une responsabilité politique. Les peuples ont besoin de grandeur plus que de pain. Or, aujourd'hui, on manque de grandeur et on n'a pas de pain. Et donc, ça va mal se passer si on n'a pas cette capacité de mobilisation.
Fabien Escalona, sur cette impuissance qui alimente le pessimisme, François Hollande et son gouvernement nous dit notre politique commence à porter ses fruits, le pacte de responsabilité, le CICE, côté social également, à l'initiative de Stéphane Le Foll, l'initiative EO La Gauche ne vous aura pas échappé, ce rassemblement de ministres derrière François Hollande qui s'auto-convainc que la France va mieux et met en avant le bon bilan social du gouvernement, santé, retraite, logement, droits sociaux, si tous ces acquis ont été, c'est vrai, à peu près protégés, on a du mal à voir quand même ce qui restera comme la réforme sociale phare du quinquennat Hollande.
Il n'y en aura pas vraiment, c'est-à-dire qu'effectivement ils peuvent mettre en avant un certain nombre de mesures plus ou moins importantes, mais si vous voulez, il n'y a aucune mesure comparable, alors même si ça a été très critiqué à l'époque, au moins tout le monde se souvient des 35 heures. Alors après, il y a des batailles sur le bilan, mais c'était identifiable. De la même façon, sous les gouvernements Mitterrand, il y avait certaines conquêtes qui étaient identifiées en tant que telles. Là, on a franchement du mal à les voir. Alors la conquête qui aurait été possible, c'était ce fameux, je crois que j'ai perdu le nom, ce fameux compte personnel.
Le compte personnel d'activité, le CPA.
Voilà.
qui est inclus dans la loi travail.
Dans la loi travail, mais qui en fait s'ajoute ou mêle des dispositifs existants, qui est encore très modeste par rapport à la révolution que ça pourrait être, le fait que chaque individu pourrait être porteur de droits sociaux opposables. Et donc même ça, si vous voulez, ça a été sapé en plus par le fait d'être intégré dans une loi qui, pour le coup, est un véritable défi à la logique que les socialistes défendaient jusqu'à présent, c'est-à-dire que ils avaient fait un certain nombre de réformes sur la finance, etc., qui allaient dans un sens libéral. Par contre, il y avait toujours une grande prudence par rapport au marché du travail et aux relations sociales. Et là, avec cette loi El Khomri, au-delà des dispositions très techniques, il y a une philosophie générale, cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes où on va tout négocier plutôt à l'échelle de l'entreprise. Qui en fait est une orientation qui avait toujours été refusée par le PS, y compris par les branches très modérées du PS. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ces réactions très fortes.
Et du coup, cette loi travail, contre laquelle 84 000 manifestants ont défilé aujourd'hui, notamment à l'occasion du 1er mai, c'est quoi ? C'est un texte qui est venu tout gâcher, quelque part, pour François Hollande et son gouvernement, ou elle marque surtout pour vous l'accumulation d'une série de déceptions ?
C'est un peu des deux. Ça vient dans une série d'accumulations où, au fond, tous les gens qui avaient une sensibilité de gauche, toutes les organisations de gauche se demandent à la fin de ce quinquennat ce qu'ils ont pu en tirer. En plus de ça, ils ont la perspective de devoir, de leur point de vue, des forces encore pires qui se profilent pour l'alternance. Et en plus de ça, le problème de cette loi travail, c'est qu'elle a été gérée d'une façon catastrophique. C'est-à-dire, c'est typiquement le genre de loi qui aurait dû être posée dès le début du mandat, puisqu'on sait qu'en plus, si jamais ça doit avoir des effets, c'est des effets qui seront nécessairement à long terme, comme c'est le cas avec la formation professionnelle, par exemple. Et donc, il y a eu une gestion du temps parlementaire qui a été assez catastrophique de ce point de vue-là par l'exécutif.
18h45 sur France Culture avec mes invités dimanche et après, l'économiste Claudia Sénic, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental Jean-Paul Delevoye et le politologue Fabien Escalota, l'occasion de remercier Xavier Rago qui a passé ces quelques minutes avec nous. Ça va mieux, disent-ils, peut-être un tout petit peu vite. Et après, que faire pour que ça aille vraiment mieux ?
France Culture.
Ça va, ça va, ça va, ça va. 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 Allez.
Dimanche et après. Olivia Gesbert.
Comment faire pour que ça va aller, comme dirait Bertrand Belin ? Comment sortir de cette spirale négative ? Jean-Paul Delevoye, l'État peut-il tout réguler aujourd'hui encore, y compris nos esprits ?
C'est une vraie question, car il ne vous a pas échappé qu'il y a 4 ou 5 ans, je crois, il y a un rapport qui a été remis au président Obama en disant « Mais qui va réguler le monde ?» Est-ce que c'est encore les États-nations ? Est-ce que ce sont les entreprises multinationales ? On voit que Google dit que dans 20 ans, il y aura 20 entreprises qui auront 2000 milliards de chiffre d'affaires. Et que, ou les circuits mafieux. On voit bien qu'aujourd'hui, 10% du PIB mondial se fait par des circuits non contrôlés. Ou bien est-ce qu'éventuellement, l'État, le monde aura la capacité d'empêcher les dictatures, d'envahir la Crimée, etc. Donc il y a une vraie question aujourd'hui. Quelle est la place de la régulation publique ? Et quelle est la puissance des États qui aujourd'hui sont remis en cause par la disparition des frontières que permet le numérique, et on voit bien même que la révolution numérique blockchain est en train même de remettre en cause les intermédiations traditionnelles que sont même les banques, les notaires, au profit de la création de nouvelles intermédiations qui est l'ubérisation. Donc on est dans un moment où le monde est illisible, incertain, imprévisible, et où le monde appartiendra non pas aux plus puissants mais aux plus anciens, mais à ceux qui sauront s'adapter. Et c'est là où on a besoin d'une vision et d'une confiance en soi. Et notre système éducatif, au lieu d'essayer d'être obnubilé par l'acquisition des savoirs, devrait être donner la gourmandise d'apprendre, aimer apprendre plutôt que d'obliger à apprendre, aimer à travailler plutôt que d'obliger à travailler, être soucieux de l'épanouissement de chacun et de chacune d'entre nous plutôt que de la performance qui écrase les individus. Et c'est cela qui est tout à fait fascinant. C'est que je crois qu'aujourd'hui, l'État, quand il veut maintenir son pouvoir central, il stérilise toute cette fertilité locale. Et en France, plus particulièrement, je crois que la France aura plus de difficultés que d'autres États, car elle est centralisée, verticalisée, et elle a tendance à vouloir tout contrôler et considérer le citoyen comme un fraudeur potentiel. Quand il faut passer du contrôle au contrat, du résultat aux objectifs, de l'individualisme au travail en équipe, et que la supériorité du pouvoir doit être remplacée par être au cœur de l'animation. Et je crois que c'est une révolution culturelle extrêmement difficile, extrêmement lourde, parce que ça remet en cause, je crois que la France est malade du pouvoir et de son obsession du pouvoir, on le voit d'ailleurs y compris dans les comportements politiques, et en même temps, il y a,
c'est exactement ce que vous dit un auditeur, pardon, sur les réseaux sociaux. Et ce message s'adresse à vous et du coup à la classe politique, peut-être que vous incarnez ce soir à ses yeux. Pourquoi écouter des guides qui ne sont intéressés que par leur seul fonds de commerce ?
Bien sûr. C'est une vraie question. C'est pour ça qu'à la Fabrique Spinoza, on a aussi sorti un indicateur nouveau du bonheur, qui n'est pas inintéressant, d'ailleurs, avec une démarche extrêmement scientifique, car les Français sont pas trop malheureux à titre individuel, ils sont très malheureux quand on leur pose la question « Allez-vous bien ?» plutôt pas mal, et quand « Est-ce que la France va bien ?» plutôt mal.
Claudia Sénic.
Difficile d'avoir une vision homogène de la France. Il y a toute une nouvelle économie qui émerge, qui n'est pas forcément dans le salariat, toute une partie de la jeunesse qui est complètement dans l'économie numérique, qui demande qu'à monter ses projets, qui n'a pas du tout envie de se faire embaucher dans des grandes entreprises, toute une partie des services qui sont destinés à se développer et toute une partie des emplois qui disparaissent.
Et donc, qui pourraient être l'ébauche, cette alternative d'un projet collectif qui pourrait susciter l'adhésion.
Voilà, alors qu'est-ce que c'est que le projet collectif quand les changements en cours, notamment qui viennent de ces nouvelles technologies, modifient complètement le destin de manière différente de ces groupes de population? Je ne sais pas, peut-être que dans le rapport CIRUG, il y a quelque chose là-dessus, sur la manière de repenser les transferts sociaux, un peu la fiscalité et les minima sociaux, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait une espèce de filet de sécurité sociale qui soit là pour tous et puis qui puisse servir de base, plus ou moins généreuse selon l'orientation qu'on prend, et à partir duquel les gens puissent prendre des risques sans le risque de tomber trop bas, à partir duquel on puisse assurer le maintien de l'assurance santé, etc. Donc peut-être que là, il y a un projet, une manière de poser des questions un peu plus fondamentales, quoi, étant donné la manière dont l'économie se modifie. Est-ce qu'on ne peut pas redonner une vision en repensant et en proposant un nouveau modèle de protection sociale?
Fabien Escalona, vous avez écrit que François Hollande, selon vous, était marqué par une pensée économique de type conjoncturel, et du coup, quelque part, qui manque réellement de volontarisme politique. On assiste en ce moment à tout un mouvement de la gauche et de la gauche des gauches pour tenter de se repenser. En tout cas, les initiatives fleurissent pour essayer de sortir de ce blocage politique. Et où la gauche, Nuit debout, notre primaire, la candidature assez offensive de Jean-Luc Mélenchon, peut-être bientôt ce collectif 1er mai, l'appel décent. Mais on a du mal à percevoir une proposition claire. On a aussi le sentiment que toutes ces initiatives accentuent le sentiment de brouillard et de dispersion dans laquelle la gauche est. Comment essayer de se repenser pour répondre à cette question du manque de satisfaction réelle des Français aujourd'hui dans l'action publique? Comment avoir une vraie politique de gauche qui réponde à ça?
En fait, ce qui est compliqué, c'est que dans votre question, il y en a deux. Il y a celle de la vie des organisations politiques, avec toutes ces vicissitudes. Et puis, après, il y a la question de fond à traiter. Alors, au niveau des organisations, il est évident que tout le champ de ce qu'on va appeler la gauche radicale ou la gauche alternative, pour l'instant, est un peu éparpillé façon puzzle. C'est sûr que Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, a pris un temps d'avance, mais il y a toute une partie de cette gauche-là qui est très, très mal à l'aise avec son initiative, qui a l'air de lâcher l'hypothèse de la primaire pour essayer tout de même d'imposer des thèmes et peut-être une candidature qui fasse plus consensus. Et donc là, c'est assez terrible parce que ça veut dire que depuis 5 ans, cet espace-là n'a pas réussi à s'organiser pour toute une série de raisons. Et au la gauche, c'est un peu différent parce que là, c'est vraiment proche du pouvoir. Mais pour le coup, c'est assez déconnecté puisque rien que l'initiative qui a lieu dans un amphi de médecine avec que des gens triés sur le volet qui viennent écouter ce qui se dit, je trouve que c'est très déconnecté en fait des enjeux. Et justement, l'enjeu de fond, on peut l'évoquer que brièvement, mais à mon avis, c'est la question de la réappropriation démocratique, et c'est ce qui est posé par Nuit Debout. Pourquoi? Parce que dans ces questions de mondialisation, de numérique, etc., ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est que la grande transformation dont j'ai parlé tout à l'heure depuis 30 ans, cette grande fatigue de l'alternance, elle vient du fait qu'on a une déconnexion de plus en plus forte entre l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire là où le pouvoir s'est redéployé, et en ce sens, les États ne sont pas que des victimes, c'est-à-dire eux-mêmes ont participé à redéployer le pouvoir politique, économique, au-delà des espaces où la citoyenneté est censée s'exercer. C'est-à-dire que les citoyens ont des droits et des capacités d'intervention sur un espace qui est de plus en plus vidé en réalité des capacités de pouvoir qui, elles, sont redéployées soit dans des mains qui ne répondent pas devant les électeurs, soit au-delà des frontières de l'État-nation. Donc la vraie question, c'est comment résorber cette déconnexion et comment organiser une réappropriation démocratique.
Mais à qui parle Nuit Debout pour vous? Nuit Debout peut parler au plus grand nombre ou pas?
En fait, c'est un mouvement qui est en cours. Donc, pour l'instant, je crois que son objectif, c'est pas vraiment de parler au plus grand monde, c'est plutôt d'attirer le plus grand monde. Alors après, le fait que ce soit, comme ça a été décrit, sociologiquement assez étroit, et encore, il faudrait nuancer, hein, selon les endroits, selon les soirs, mais ça n'est pas étonnant. Donc, c'est un mouvement en cours, ça fait un mois. Bon, je crois qu'il faut observer ça avec beaucoup de prudence.
Et dans tout ça, cette absence, proposition, cette capacité de la gauche progressiste à se poser surtout en défense du modèle social français, pour vous, ça caractérise quoi? Une absence, là, de réflexion stratégique sur ce que devrait être l'avenir de la gauche? On ne peut pas se suffire de ça aujourd'hui pour la gauche gouvernementale, se poser comme défenseur du modèle social français? Parce que c'est ce que nous dit EO La Gauche aujourd'hui, hein.
Oui, mais en réalité, c'est contredit en même temps par certaines politiques qu'ils mènent. Donc en fait, ils ont des discours qui sont très très difficilement compréhensibles.
Claudia Sénic.
Je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que on va pas parler que de la gauche ici, mais que les avis sont partagés. C'est-à-dire que je pense que certaines réformes structurelles qu'une partie de la gauche essaye de mener, Macron, Valls, c'est pour sauver le modèle social français, c'est pas pour le détruire. Alors, vu de l'autre côté, on peut avoir l'impression que ça le détruit ou que c'est pour le détruire, mais je crois que c'est pour le sauver. Enfin, c'est l'idée qu'il faut en passer par certaines étapes, par certains trajets pour arriver au point voulu, et que tout est pas forcément immédiat et direct, et que parfois, si on fait une réforme qui a l'air de... il faut penser en deux étapes parfois, pas seulement en une seule étape. Donc, j'ai l'impression que l'avantage, en fait, de cette loi, dont vous dites qu'elle a tué ou éloigné ou repoussé l'électorat de gauche, c'est justement de clarifier les choses, c'est de clarifier le fait qu'il y a vraiment deux manières de voir la route à prendre, et que peut-être, en fait, il est temps que ça se sépare, que les gens puissent s'identifier justement à une proposition ou à une autre.
Choisir
plutôt que
voie.
Toujours ouais. Dire le court terme, c'est les élections, donc finalement, on se rassemble, et puis du coup, évidemment, les gens ne se reconnaissent plus dans des partis qui sont tellement hétérogènes. C'est plutôt ça.
Jean-Paul Delevoye, comment faire pour que ça aille mieux?
Si je reprends le contexte actuel de la loi travail, elle avait deux buts. Un, d'apaiser les inquiétudes des employeurs de recruter, et de l'autre, d'apaiser l'inquiétude des salariés par la perte de leur emploi. Et on s'aperçoit que par toute une série de maladresses qui a été évoquée par M. Scalona ou Mme Sénic, en fin de compte, elle a aggravé les inquiétudes de tous les acteurs. Et on s'aperçoit que c'est un problème uniquement de temporalité. Aujourd'hui, il faut voir de façon très positive la mobilisation citoyenne. Les citoyens veulent être responsables. Mais ils veulent être responsables pour qu'ils comprennent les enjeux. Or, on leur a pas expliqué les enjeux. Et on a toujours effectivement l'éternel débat où, à gauche, on dit il faut d'abord faire le social, puis ensuite l'économie suivra. Et puis à droite, on dit il faut d'abord créer les richesses économiques et ensuite on les redistribue. Et personne ne se rend compte que le monde est en train de changer à toute vitesse et que le monde de demain va, si nous n'y prenons pas garde, remettre en cause ce qui, à nos yeux, paraît le plus précieux. Et on entend toute une série de discours. La France, c'est quelques pourcents de la population mondiale, c'est 7% du PIB mondial et c'est 15% des transferts sociaux. Eh bien, les transferts sociaux risquent d'être fragilisés parce que ça nuit à la compétitivité. C'est un choix de société, c'est même plus un choix de gauche et de droite. On voit bien que la frontière européenne, elle casse la gauche en deux, elle casse la droite en deux. Et si il n'y a pas un débat politique sur quel projet de société permettant à chacun d'être entrepreneur, d'être acteur, d'avoir une relation nouvelle sur le travail, une mobilisation citoyenne. Les citoyens, ils veulent être écoutés. Formidable opportunité pour les politiques. Les salariés veulent être entendus par les entrepreneurs. Et donc, on ne bâtira pas une transformation sans la capacité d'accepter le changement. Et c'est la donnée politique majeure, c'est que les décideurs politiques n'ont pas compris que l'acceptation sociale était au cœur de l'adhésion, de leur renforcement et de l'exécution stabilisée des décisions.
Pour que ça
et
aille
nous
mieux.
Plus à gérer. Mais bien sûr, parce que ils sont obsédés par leur majorité, alors que demain c'est la gestion des minorités contestataires ou d'adhésion. La France est diverse.
Pour que ça aille mieux, Jean-Paul Delevoye, et je pense qu'on sera peut-être du coup tous d'accord, on peut terminer là-dessus. Il faut des choix politiques. Fabien Escalona, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Claudia Sénic, Fabien Escalona, Jean-Paul Delevoye, et merci aussi à Xavier Rago qui était en ligne avec nous tout à l'heure. Au chant, il y avait aujourd'hui Bertrand Belin, quelques notes de Ça va, ça va, ça va, extrait de son dernier album, avant-dernier album, Le Déluge. Bertrand Belin qui sera en concert les 3 et 4 mai au 104 à Paris et le 22 à la Philharmonie dans le cadre d'une tournée partout en France. À la réalisation, il y avait ce soir Perry Legras avec Jacques Hubert ici à Paris. Un grand merci à nos amis de Lille qui ont permis ce duplex avec vous, Jean-Paul Delevoye, surtout un 1er mai, à la préparation et sur le fil des réseaux sociaux, Mathias Mégy. Très 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 bonne soirée à tous.